Bonjour, bonjour, galère, galère. Alors oui, bah, nous sommes en retard, je suis désolée, quelques soucis techniques. Donc, avec en fond notre amie Mariam Makeba, nous allons commencer en raccourcissant un petit peu le générique. Donc, bonjour auditrices et auditeurs de Livres et Amis pour cette émission du mercredi 13 septembre. Et bah, cette fois, c'est vraiment la rentrée, celle des écoles, oui, mais surtout celle des activités qui marquent l'automne. Voilà, oui, je vais pouvoir parler toute seule, ça va être bon. Donc, avec les activités qui marquent l'automne, j'ai vraiment des parasites sur le retour. Je ne sais pas si on peut... Enfin, je ne sais pas si ça passe à l'antenne ou pas. Non, c'est bon. Si ça ne passe pas à l'antenne, c'est parfait. Ça, c'est... Non ? D'accord. Alors, je continue. Je parlais de la reprise des activités... Avec en particulier le week-end prochain, bah le week-end prochain en région parisienne, la fête de l'humanité. Un peu partout, le week-end prochain toujours, bah, le week-end du patrimoine. Et puis à Marseille, plus spécialement, samedi, les lancements de saison du Théâtre de la Criée et du Théâtre de la Joliette. Donc lançons la saison, lançons la saison, faisons notre programme, faites votre programme, bon week-end. Pour Livres et Amis, ben encore une émission de transition quand même, avec un conte comme nous en avons eu l'été dernier, mais un conte sérieux finalement. C'est l'histoire d'un ogre, de Éric Orsenna, et cet ogre-là, ben cet ogre en fait, c'est Vincent Bolloré, le méchant ogre qui dévore sans fin, en particulier les entreprises du paysage audiovisuel français. Avec au micro, comme d'habitude, Dominique et Françoise, et à la technique, Alex. Et donc, un livre tiré des rayonnages d'Odile, à qui, dans sa maison de retraite, les amis apportent toujours, assez régulièrement, des livres. Je me suis donc saisie sur les rayonnages d'Odile de « Histoire d'un ogre » de Éric Orsenna, que je jugeais intéressant, puisque cette histoire d'un ogre, c'est bien celle de Vincent Bolloré, ogre dévoreur d'entreprise. Mais ben voilà, c'est Éric Orsenna l'auteur. Alors Éric Orsenna, bien avant l'exposition coloniale qu'il a rendue célèbre en 1988, il avait acquis une solide formation d'économiste. Il a même fait partie des équipes de conseil de François Mitterrand dans l'entourage direct du président. Il a été la plume de François Mitterrand à l'Élysée pendant plusieurs années, c'est-à-dire qu'il écrivait ses discours, même si le président, lui, modifiait parfois cela de quelques traits de plume, justement. Enfin bref, traquer l'ogre pour Éric Orsenna et le faire de façon judicieuse, avec une étude économique argumentée, c'est ce à quoi je m'attendais. Mais finalement, traquer l'ogre, ça n'a pas été tout à fait ça. En lisant le livre, je me suis rendu compte que si Vincent Bolloré était effectivement un ogre, Éric Orsenna lui passait finalement pas mal de choses. Enfin bon, vrai. Traquer l'ogre, on s'est donné ça comme activité de rentrée, pardon. Et même si j'aurais un peu dû me méfier de Éric Orsenna, on va effectivement, pendant cette émission, traquer l'ogre avec Histoire d'un ogre. Alors Éric Orsenna, oui, il était devenu académicien, il a fait partie des soutiens actifs à Emmanuel Macron et il a reçu du pouvoir bien des couronnes et des palmes. Donc dans son analyse du parcours de l'ogre, nous verrons en route que c'est une analyse qui égratigne plus qu'elle ne dénonce vraiment. Commençons bien sûr par l'introduction et c'est Françoise qui va nous lire ça comme d'habitude.
Ogre, nouvelle manifestation de mon optimisme maladif. Je nous croyais une bonne fois pour toutes débarrassés de ces géants et bedonnants personnages amateurs de chair fraîche. Or voici... que depuis quelques années, derrière les bruits de la ville, à condition de bien se concentrer, on pouvait entendre, de jour comme de nuit, certains bruits qui ne trompaient pas. Craquement d'une mâchoire à l'œuvre, succion d'une bouche qui avale, flatulence d'une digestion demandant grâce. À l'évidence, dans notre pays, quelqu'un mangeait. Oui, quelqu'un dévorait même, sans répit ni repos. Et personne ne semblait s'en émouvoir. Il aurait pourtant suffi de jeter un coup d'œil. Dans les poubelles, on y aurait vu les reliefs de ce repas perpétuel. Ici, le souvenir d'une radio, jadis indépendante. Là, les restes d'une maison d'édition légendaire. Les bruits se rapprochant, votre narrateur décida de mener l'enquête. Quel était donc cet ogre venu du fond des âges pour se repaître du royaume de France ? La géographie facilita les débuts de ma tâche. Une bonne partie de ma famille habite l'ouest, dans la bonne ville de Quimper, tout près de l'endroit où, dit-on, commença cette folie d'engloutir.
Oui, cette folie d'engloutir, donc, mais avec deux personnages principaux. Vincent Bolloré, l'ogre de Quimper, ou plus exactement l'ogre de Laudet, pour cette petite rivière bretonne au bord de laquelle se trouve le berceau familial. Mais aussi, autre personnage intervenant dans le récit, le narrateur, Éric Orsenna lui-même, qui se met en scène en tant que narrateur et qu'on retrouvera également, donc, au fil des pages, derrière le « je » ou le « nous » du récit, même si j'ai choisi des extraits où il n'apparaît pas trop parce que ce n'est pas vraiment lui qui m'intéressait. Alors, retour à l'ogre, avec d'abord son histoire de famille. L'origine, c'est effectivement un moulin sur cette rivière de Laudet. Et le moulin, c'est un moulin à papier. Un moulin à papier qui s'est spécialisé dans la production de papier fin, en particulier le papier à cigarette. De cette spécialisation vient effectivement la fortune de la famille. Plus les Français fument, plus la fortune de la famille s'accroît. Et avec la Deuxième Guerre mondiale vient aussi la gloire. Un oncle de l'ogre, résistant et libérateur du territoire national avec les troupes de la France libre, ajoute la grandeur à la fortune. Et notre bébé ogre naît peu après. Le bébé mâle qui naît en 1947, c'est le neveu du héros. Et il ne met pas longtemps à se faire connaître. Aucun biberon n'est assez plein pour lui. « Madame !» disent et répètent à sa mère, toutes celles qui s'occupent du bambin. « Madame, madame, vous avez vu ses dents ? Oh là là, mais vous avez donc enfanté un ogre !» Voilà, le décor est en place, un moulin, une rivière, un héros, un ogre, les personnages sont prêts, l'histoire peut commencer. Donc, ogre, il est né, oui, en Bretagne, et le héros qui l'élève commence à lui bâtir également une étoffe de héros. Redonnons le livre à Françoise.
Un 1er avril, le héros jugea qu'il était temps d'apprendre la grandeur à son neveu qui venait de fêter ses 8 ans. Quelle meilleure destination que Carnac et ses alignements de pierres colossales. Toutes les sources familiales, scrupuleusement consultées par votre narrateur, le confirment, le jeune Breton revint bouleversé par cette plongée dans la préhistoire. Nous n'étions donc pas condamnés à la petitesse ? Preuve était apportée qu'autrefois des humains avaient existé de bien plus haute taille que la nôtre, d'une telle force qu'ils étaient capables de transporter ces blocs de granit. Serait-il possible de leur ressembler ? En buvant quelle potion magique ? En s'adonnant chaque matin à quelle sorte de gymnastique ? Quels étirements ? Vous ne l'ignorez pas. Les géants ont pour mère Gaïa, la terre, et pour père Ouranos, le ciel. Rien de moins. Dotés d'une telle ascendance, on ne s'étonne guère qu'ils aient un beau jour décidé d'affronter les dieux en des combats terribles connus comme la gigantomachie. Imaginez le trouble du gamin découvrant ces histoires. Comment voulez-vous qu'elle ne lui ait pas chamboulé le cerveau ? Ses camarades de classe se rêvaient footballeurs, les stars de l'époque, Coppa, Just Fontaine, Di Stefano. Lui ne disait rien, serrait les dents, mais ne jurait que plus tard. Croix de voix, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Il deviendrait géant, un géant capable de transporter lui aussi ces très très gros cailloux et d'en construire des mausolées dont on se souviendrait des millénaires plus tard. N'accomplons pas l'oncle, le héros familial, il croyait bien fier. Mais alors que lui, fidèle à sa morale médiévale, avait créé les éditions de la Table Ronde, son neveu se trompa de grandeur. Au lieu des chevaliers en quête du Saint Graal, sauveur de veuves et d'orphelins, cet enfant se donna pour modèle les géants et les ogres.
Les géants et les ogres, mais les géants et les ogres de la finance. Alors en fait, pour rétablir un petit peu la vérité, l'oncle n'a pas vraiment créé les éditions de la Table Ronde, il n'a fait qu'y participer. Mais qu'importe, la légende justement se construit. Il faut bien participer à la construction. Notre héros est-il devenu l'ogre international que nous connaissons parce qu'ainsi, très tôt, le surnomma sa mère et que par amour pour elle, il ne voulait pas la décevoir ? On connaît des personnalités foncièrement timides et modestes, se forçant à devenir président de la République juste pour se conformer au rêve impérieux de maman. Ou bien, était-il vraiment dans sa nature d'ogre, de tout dévorer ? À force d'errer dans les crêperies locales, j'ai retrouvé trois camarades de notre ogre du temps qu'il n'avait pas 15 ans. J'ai consigné leurs propos. Voilà, il y a plusieurs témoignages. Le premier. Sans rien faire, les bras croisés et le visage ricanant, il nous regardait construire nos cabanes d'ajoncs et de fougères. À peine en avions-nous achevé une, tantôt dans le parc, autour du moulin, tantôt au milieu des branches d'un grand arbre, qu'il s'avançait et, sans bonjour ni merci, y installait ses albums de Tintin et ses jumelles militaires, cadeaux de son oncle le héros. « Mais enfin, protestions-nous, vous avez un titre de propriété ? » répondait-il. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le papier qui me donne tout pouvoir. Et tu l'as trouvé où ce papier ? Bah, mon père a une papeterie, alors c'est pas pour rien quand même. Donc la queue basse, nous allions construire ailleurs. Un autre témoignage. Pour échapper à son appétit, nous bâtissions de plus en plus loin jusqu'à Pont-l'Abbé ou même Concarneau, voire le Crenant. Alertés on ne sait comment, par le bruit de nos petites haches et par l'acuité miraculeuse de ces fameuses jumelles, ils se pointaient et, comme d'habitude, nous chassaient. On avait beau hurler « Mais non, tu n'as pas de titre !»« Oh, oh, je l'aurai !»« Mais à quoi ça va te servir, cette nouvelle cabane ? Tu en as déjà 17 !»« Oh, des cabanes ? On n'en a jamais trop !»« Et puis, j'aime pas quand d'autres ont ce que je n'ai pas. Donc, ces cabanes sont à moi. » Et voilà. Voilà, sans même me regarder, ce que l'ogre m'a répondu cette fois-là. Voilà donc quelques témoignages. Et poursuivons avec un petit peu d'économie. L'ogre grandit et son royaume doit s'agrandir, bien sûr. C'est ce à quoi il va très vite s'employer. La riche idée lui vint, typique de son caractère, que, oui, bien sûr, il fallait redéployer l'entreprise familiale. Poursuivons dans l'emballage. Avec la croissance, multiplions les produits. Il va bien falloir en pacter, par exemple, et chaque jour davantage, pour accroître la consommation. La croissance et la croissance de la consommation, oui, allons-y, l'emballage a de beaux jours devant soi. Abandonnons sans regret la belle matière qui fit notre fortune. Le papier fin, le papier cigarette, qui s'avère décidément trop fragile, et puis surtout qui va dépérir, puisqu'on encourage les gens à ne plus fumer. Remplaçons tous ces trésors par le nouveau trésor issu du pétrole, le plastique. Bon, on nous décourage peut-être de l'utiliser, mais tout de même, c'est le roi du monde, le plastique. Et poursuivons dans la finesse, oui, avec le film plastique. Voilà, le très jeune responsable du groupe devient, dans ce leadership, une entreprise très profitable. Et vous verrez que dans son jargon de la modernité éco-responsable, la vision déjà présente est là. Nous concevons des films rétractables pour la protection, la conservation et la mise en valeur des produits alimentaires et de grande consommation. en maîtrisant complètement les technologies de co-extrusion et de bio-orientation, nous nous épargnions de travailler la matière plastique difficile, sujet au cœur des préoccupations actuelles. Nous restons dans le fin du fin en quelque sorte. En conséquence, une vraie dérive, une dérive à un moment donné d'un homme visionnaire qui est utile aux autres, qui se cherche donc des produits utiles aux autres, et une dérive en ogre obsédé d'avaler. Mystère de la nature, traumatisme caché de l'enfance, mission familiale, ordre venu du ciel, puisqu'il est très croyant, peur panique de manquer un jour, terreur de la mort, combinaison improbable et changeante de toutes ces déraisons. Eh bien oui, en tout cas, l'ogre est en son domaine. Il étend son domaine vers d'autres activités. Et on se demande pourquoi, un jour, comme ça, il étend son domaine vers le commerce maritime. En fait, bien sûr, il cherche simplement à étendre ses pouvoirs, à étendre ses réseaux. Et il trouve, chez un camarade breton, une entreprise qu'il va pouvoir dominer très vite, en le séduisant, ce petit camarade qui s'appelle Tristan, en plus, bien breton. Donc, il va peu à peu noyauter les membres de sa famille pour récupérer son entreprise. Et oui, on le sait, un ogre n'est jamais rassasié. Vous savez, nul ne savait le nombre d'épouses de Barbe Bleue, pas plus que celle de Henri VIII, pas plus qu'on ne connaît finalement le montant exact de la fortune de Jeff Bezos. Eh bien nous, avec notre ogre, c'est pareil. Il a étendu ses activités vers le commerce maritime, vers l'Afrique, et on va même avoir quelques précisions justement sur son activité. Tout le monde connaît la roue, une des plus brillantes inventions de l'humanité. La poulie est sa fille, qu'un certain natif de Syracuse nommé Archimède eut l'idée de multiplier en inventant aussi le palan. Ce physicien génial, car pragmatique, montra qu'il suffisait d'ajouter des poulies et encore des poulies pour réduire son effort. Ben oui, c'est vrai, pourquoi s'épuiser? L'intelligence existe pour venir en aide à la paresse. L'autre personnage intervenant dans notre histoire, c'est la démocratie. Le principe est simple et même radical. Dès qu'on atteint 50,1% des voix, tout est permis. La minorité, même forte, à 49,9%, n'a plus qu'à se taire. Alors, combinez poulie et démocratie et vous comprendrez comment l'ogre a pu avaler tellement d'entreprises avec au départ si peu d'argent. Merci la poulie. C'était bien de me doter d'une force que je ne me connaissais pas. Je suis ambitieux, follement, mais démuni, enfin tout est relatif, ne disposant que de la moitié ou du quart de l'argent qu'il me faut pour acheter une société. Eh bien, je vais trouver des amis pour investir presque les mêmes sommes et me voilà avec 100% du pouvoir dans une entreprise où je domine avec 50,1%. Un traitement que, par la suite, je réserverai éventuellement à mon ou mes gentils associés. Car pourquoi s'arrêter là? Nous pouvons faire beaucoup mieux. Pourquoi ne pas multiplier les poulies pour réinvestir et utiliser ce génial palan? Créons un fonds A, il va contrôler un fonds B, et en acquérant 50,1%, avec ce fonds B, je vais pouvoir gouverner un fonds C qui, grâce à la même majorité minimum, me permettra d'acquérir un fonds D, etc., et ainsi de suite. Et avec finalement 3% d'apport minimal, eh bien, je deviens seul maître à bord de ma cible. Voilà, c'est comme ça que j'ai même été, en bon ogre, baptisé Mozart de la finance. Mozart de la finance, c'est Françoise qui va nous lire la suite.
Cette première emplette n'avait pas seulement ouvert l'appétit de l'ogre. Elle avait révélé au plus profond de son estomac une cavité, que dis-je, un gouffre, qu'il allait désormais devoir chaque jour combler. Dès le début de l'opération, une excitation aussi nouvelle que totale l'avait envahi. Pour entrer dans les détails corporels, sitôt fomenté ce projet de manger tout cru la vieille entreprise de navigation rochelaise, le grand rire silencieux des carnassiers avait stimulé comme jamais son cerveau. Ses yeux, d'après sa secrétaire, avaient rayonné d'un éclat presque inquiétant. « Président, ne me regardez pas ainsi, vous me faites peur. » Tel est, typique et fort bien documenté par la psychiatrie internationale, l'addiction à dévorer. Apprenez qu'elle est plus violente, plus invasive et moins guérissable que toutes les autres maladies du désir, le jeu, le sexe, les drogues, l'alcool, les besoins irrépressibles, la passion du pouvoir et le fanatisme religieux. Il y a pire, deux fois pire, puisque cette première prise de contrôle s'était avérée finalement si facile, puisqu'elle avait engendré tant de bonheur mêlé, aussi divers qu'inusité, pourquoi s'en priver ? Et puisque cette addiction, contrairement à toutes les autres, rapporte beaucoup, au lieu de coûter, donnez-moi une seule bonne raison de ne pas m'y livrer corps et âme. Personnalité démente mais cohérente, comme souvent, hélas, les déments, l'ogre avait entendu le double message, si bien que son appétit se déchaîna, et ses repas s'enchaînèrent, sans choisir entre les plats. Tout était bon pour se repaître.
C'est un vrai conte, en effet, mais un conte qui repose sur les explications de physiologie et de fonctionnement de l'ogre ou des ogres en général. Alors, les ogres, oui, mais celui-ci en particulier. Cet ogre, ben oui, cet ogre, Vincent Bolloré, il réfléchit à une stratégie de groupe avec une bande de conseillers, par exemple. Maintenant, oui, maintenant, qu'allons-nous faire ? Maintenant qu'ils sont à nous, tous ces bateaux, par exemple. Bonne question, Président. Quand on y pense, rien de plus dangereux qu'un navire. Ah ben oui, c'est vrai, ça peut couler. Et puis, bah oui, plus souvent qu'à son tour. Bon, je serai vous, Président, ces bateaux, je les revendrai. Tous ? Ben oui, tous. Et puis, je les remplacerai par des ports. Si l'on y réfléchit, les ports sont des espèces de bateaux, mais avec deux avantages. Un, ils ne sombrent pas. Deux, ils sont immobiles. Pas besoin de gazoil. Oui, mais enfin, il y a un inconvénient, et de taille, les dockers. Leurs syndicats sont bien plus présents, bien plus revendicatifs que chez les marins. Oui, ben c'est pour ça que nous allons acheter des ports, mais des ports en Afrique, où cette plaie des syndicalistes et des dockers n'existe pas. Oui, enfin bon. Mais profitons-en, oui c'est vrai, il sera toujours temps de nous en débarrasser de ces capitaux. Alors, tu veux dire, on achète les ports, et nous les construisons, nous les rénovons, et puis au bout d'un moment, on les revend. Ben oui. Acheter à un prix, revendre plus cher, c'est le principe d'un investissement réussi. Et en fait, il y a un troisième avantage pour ces ports africains, sans doute le principal. Ils dépendent étroitement, dans chaque pays, du chef de l'État local, avec lequel on doit là-bas toujours pouvoir négocier intelligemment. Intelligemment ? Oui, dans le plus strict respect de l'intérêt général. Ah, intérêt général ! Oui, intérêt commun des deux parties. Éclats de rire et applaudissements. Merci, messieurs, merci, merci, merci. Et il faut imaginer que le jeune ogre, en cette fin de journée, très satisfait de son équipe, l'emmena dîner dans un autre moulin, celui de Rosmadec, par exemple. Un peu cher, bien sûr, mais enfin, sans conteste, la meilleure table du coin. Voilà, c'est donc encore une fois une leçon de finance, une leçon d'appropriation capitalistique, et l'ogre va bien sûr progresser en ce sens. On va prendre encore un autre exemple et puis ensuite on fera la pause.
Sauf quelques rares exceptions, plus les pays sont riches en matières premières, plus leurs peuples sont pauvres. Car deux lois fondamentales régissent toutes les sociétés humaines, de la plus petite des familles au plus vaste des empires. Première loi. Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Le pouvoir corrompt. Le pouvoir absolu corrompt absolument. John Emrich Edward d'Alberg Acton, parlementaire anglais et professeur à Cambridge, 1834-1902. Deuxième loi, découverte puis confirmée par tous les médecins de bonne foi, ça existe. Le travail est meilleur que la rente pour la santé, toutes les santés, mentales et physiques, et surtout morales. Écoutez la sagesse d'un Turc rencontré par le Candide de Voltaire tout à la fin de son périple. Le travail éloigne de nous trois grands maux, l'ennui, le vice et le besoin. De ces deux vérités simples, la malfaisance du pouvoir et la nocivité des rentes, on peut déduire un certain nombre de conséquences également incontestables. Conséquence numéro 1. Mieux vaut pour un pays des richesses dispersées, ayant pour source des activités diverses, plutôt que concentrées sur l'exploitation d'une ou deux matières premières. Et pourquoi donc ? Pour deux raisons. Petit a, la diversité rend plus difficile la mainmise du pouvoir politique sur l'économie. Petit b, le fourmillement de toutes ces entreprises, la dynamique qui est leur nature même, réveille les énergies, dope les talents. J'en ai mille. Au plus près de nous, vive la Tunisie. Je vérifie que j'ai pas sauté une page. Ne disposant au départ de presque rien, excepté un beau rivage et du sable, elle s'est vue contrainte de développer son industrie et son commerce, tandis que sa voisine, l'Algérie, dort, reposée sur son pétrole et sur son gaz. Conséquence numéro 2, plus un pays possède un sous-sol doté de trésors, plus ses dirigeants sont riches et plus son peuple est pauvre. Conséquence de la conséquence numéro 2, dans ces pays qui avaient tout pour être heureux, la dictature règne, plus ou moins habilement travestie en démocratie. Et pourquoi donc ? L'alternance, cette respiration qui est le mouvement même de la démocratie, n'est pas supportable pour les politiques en place. Le pouvoir est une drogue forte, personne ne peut s'en sevrer complètement. Se retrouver, double peine, privé de l'argent qui accompagne le pouvoir, ça, ce n'est pas supportable pour un dictateur. Naïf lecteur, touchante lectrice, il n'était que temps de vous ouvrir les yeux sur les mœurs de notre espèce humaine. Encore un tout petit peu de patience. J'ai encore à vous présenter une ultime conséquence des deux lois fondamentales précédemment rappelées. Occasion pour nous de boucler la boucle en revenant à notre personnage. L'ogre ? Exactement. Pourquoi croyez-vous qu'il s'est si fort et si tôt intéressé à l'Afrique ? Parce que c'est LE continent des matières premières. Et d'après vous, d'où sont exportées les matières premières africaines ?
Des ports.
Des ports. Exactement. Et comment obtenir la concession d'un port ? En devenant l'ami de celui qui, dans ces pays, décide de tout, c'est-à-dire le chef d'État. Entre ogres, on se comprend, le courant passe. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Visé par une enquête le soupçonnant de corruption, l'ogre reconnut sa culpabilité et son groupe accepta, pour échapper à un procès, de verser une petite amende de 12 millions d'euros, communiqué du parquet national financier français en date du 26 février 2021. Le même jour, le tribunal correctionnel de Paris a cependant refusé d'homologuer le plaidé coupable de l'ogre et l'affaire est toujours en cours à ce jour. De toute manière, il avait amassé assez de cash. L'heure était venue pour lui d'aller rassasier ailleurs son insatiable appétit. Ailleurs que sur ce trop riche, donc trop pauvre continent africain. En d'autres termes, il vendit ses ports.
Il vendit ses ports, il changea ou il modifia ses activités principales. Donc, on va fermer la première partie de l'étude sur l'ogre et on va faire une petite pause musicale avant d'entamer la deuxième partie. Alors, on va vous faire une petite chanson de l'ogre, peut-être un peu enfantine, mais quand même bien rythmée, et puis on va redémarrer après.
Comme un cochon, gros nez, gros bidon. regarder le pion.
C'était pas mal, hein, la chanson de l'ogre Georges, avec ses grandes dents et son grand appétit, justement. Notre ogre, c'est Vincent, Vincent Bolloré, et à nouveau, on va reprendre un petit peu d'économie en nous penchant sur d'autres personnalités bien connues de la France capitaliste, sur lesquelles ben, notre Vincent va se pencher lui aussi pour aller attaquer leur fortune et se la faire sienne. Alors, comme ça, on va commencer par J2M. Vous savez, vous vous souvenez de Jean-Marie Messier, qui s'était rebaptisé lui-même J6M, Jean-Marie Messier, moi-même, maître du monde, président du groupe Vivendi, qu'il avait bien poussé. Alors, cet homme de bon sens, quoique de folle ambition, avait voulu rapprocher les deux parties de sa société, celle qui fabriquait des tuyaux, enfin, n'exagérons rien, les télécommunications, et celle qui produisait les contenus passant par ces tuyaux. Ben oui, Canal+, ou Universal. Il avait de bonnes intuitions, des intuitions assez évidentes finalement, mais avec des résultats comptables décevants, voire catastrophiques. Le président J2M, il a bien pâti de certains désordres de son groupe. Alors, profitant du désordre qui s'était ensuivi et de la virtuosité qu'il possédait désormais dans la manipulation des poulies, eh bien, l'ogre s'immissa dans cette Vivendi et il en grignota lentement mais sûrement le capital pour finir par s'installer dans le bureau présidentiel, tout en haut de l'avenue de Friedland, au numéro 42 pour être précis. Moment décisif dans la biographie de l'ogre. Imaginez le vertige qui le prend. Ses ancêtres emballaient du tabac, donc de la fumée. Et moi, maintenant, grâce aux œuvres que je propose, filmées, chantées, écrites, parlées, eh bien, je vais imposer des valeurs. Ah oui, valeurs, vous vous souvenez, Valeurs Actuelles, ce magazine d'où venait le directeur qui l'a bombardé à la tête du Journal du Dimanche. Les journalistes du Journal du Dimanche, ils ont fait un mois de grève et puis ils sont allés, excusez-moi du peu, se rhabiller. Parce que notre ogre, bah, il a tenu bon et finalement, bah oui, le directeur de Valeurs Actuelles est devenu le directeur du Journal du Dimanche. Alors c'était une incursion dans l'actualité très très directe. À l'époque, quand Monsieur Vincent Bolloré dévore Vivendi, c'est-à-dire Monsieur Jean-Marie Messier, eh bien l'ogre, lui, il est bien installé et il ne cesse de rêver devant cet arc de triomphe qui lui fait face. Un arc de triomphe dans l'avenue Friedland, enfin en haut de l'avenue Friedland, victoire de cet empereur qu'il avait possédé lui aussi. Victoire sur les Russes en passant, mais peu importe. Et puis, bah oui, il rêve, notre ogre, et je ne sais pas s'il joue de l'orgue, non, je ne crois pas. Et il rêve en voyant de l'autre côté de l'étoile, là, le beau bâtiment aussi du jeune Lagardère. Vous savez, le jeune Lagardère, ça vous rappelle quelque chose? Ce jeune Lagardère de Hachette, bah oui, c'est une idée, ça. Où est-ce qu'on va bien pouvoir trouver le capital qui va nous permettre de mettre la main sur Hachette? C'est Françoise qui va nous le dire, bien sûr.
Les banques vous font des yeux de plus en plus doux, intelligentes comme elles sont dès qu'il s'agit d'argent, puisque c'est leur métier. Elles ont bien deviné qu'elles gagneraient gros à vous accompagner. Cet intérêt tombe bien, puisqu'il est aussi le vôtre. Vous avez beau être Mozart, vous ne pourrez pas rester longtemps seul si vous voulez étendre votre répertoire. En langage d'ogre, si vous voulez avaler des proies plus grosses. Votre habileté dans le maniement des poulies ne suffira pas. Il vous faudra d'autres compétences, par exemple dans le domaine hautement technique des fusions-acquisitions et de leur corollaire mafieux, l'optimisation fiscale.
Alors, je crois qu'on va à la page 71. Bien sûr, il s'agit d'explications financières, mais il s'agit d'explications financières qui nous disent comment l'ogre agit.
Rien n'est plus stupide et irresponsable, juste pour être élu président de la République, que proclamer « la finance, voilà l'ennemi ». La finance, c'est l'allié des rêves, n'est-ce pas ? Bien sûr. Elle, et elle seule, peut les changer en possible. La finance doit être un moyen, mais jamais une fin, exactement. Vous connaissez la meilleure définition de l'argent ? Le meilleur des serviteurs ? Le pire des maîtres ?
Oui, cette citation-là, c'était une citation de François Mitterrand. Alors effectivement, Bolloré, quand même, il n'était pas très copain avec François Mitterrand. Enfin, ils n'étaient pas tout à fait du même côté. La finance, voilà l'ennemi, c'était typiquement une déclaration qui ne convenait pas à notre ogre, puisque au contraire, lui, la finance, comme on l'avait expliqué dans le chapitre précédent, la finance, c'était son ami, et son ami pour avoir les pouvoirs de décision. C'est vrai que pouvoir et capital vont souvent ensemble, et donc notre ogre, lui aussi, il va tâcher d'avoir le pouvoir, non seulement sur les entreprises, mais aussi sur le pouvoir politique. Il va tâcher de se rapprocher précisément de ce pouvoir politique et d'obtenir avec d'autres présidents un parrainage qui en effet lui corresponde. Mais avant, encore une petite distinction, entre justement les entrepreneurs et les ogres.
D'un côté, les entrepreneurs, autrement dit, des créateurs, des hommes et des femmes qui se battent pour offrir au plus grand nombre possible des biens et des services jugés utiles à tort ou à raison. Ces hommes et ces femmes sont des alliés nécessaires, car sans eux, sans leur financement, pas d'entreprise. Ces alliés nécessaires, on les appelle banquiers, banquiers tout court. Et si on ouvrait cette bouteille, ça donne soif l'enseignement. De l'autre côté, il y a les ogres. Ceux qui trouvent beaucoup trop difficile de créer une entreprise, ils préfèrent attendre. Dès que l'une d'entre elles donne des signes de faiblesse, hop, l'ogre se jette dessus. C'est pour cela que les ogres, dans la classification de Linné, sont appelés nécrophages, au même titre que les chacals, les varans chez les lézards, les dermestres ou les sylphes chez les insectes, toutes ces bêtes qui se nourrissent de cadavres. Mais alors, quel est le rôle de ces banquiers d'affaires ? On pourrait aussi les appeler bouchers, s'ils méritaient ce beau titre. Ils découpent en morceaux la proie, je veux dire l'entreprise, pour que l'ogre puisse l'avaler plus agréablement. On appelle cette activité les fusions-acquisitions.
Donc, après cette petite leçon sur les financements et les rachats d'entreprises, en même temps, ça nous permet de comprendre l'appétit de l'ogre, bien sûr, mais aussi les moyens de le satisfaire, les moyens d'assouvir cette faim permanente qui fait qu'en effet, il dépèce les entreprises, il s'en repaît, ou bien il les met dans son giron et donc il les acquiert pour son plus grand profit. Continuons à propos du financement avec une petite digression sur l'argent et le pouvoir de l'argent. C'est vrai qu'on a déjà vu la citation de François Mitterrand qui lui refusait de dire que le pouvoir politique serait soumis au pouvoir de l'argent. Mais voyons un petit peu les autres présidents. Qu'en est-il en particulier de la proximité, donc de notre ogre, avec les autres? Alors, c'est vrai que si on revient à François Mitterrand, c'est un peu drôle, parce que les ancêtres de François Mitterrand fabriquaient du vinaigre. Ah oui, ils étaient dans la région de Cognac, mais eux, ils fabriquaient du vinaigre, comme d'ailleurs les ancêtres du psychanalyste Lacan. Alors, petite pointe, ici, on pourrait pouvoir trouver dans cette ascendance le lien entre le plaisir et l'acidité. Chez ces gens-là, on grimace en jouissant, ou l'inverse, enfin je ne sais pas trop, là c'est une petite pointe de Éric Orsenna. Alors, les autres présidents, pour Giscard, la recherche de l'argent, c'était considéré comme, un petit peu comme par François Mitterrand, comme une activité trop vulgaire pour quelqu'un qui souhaite n'être qu'un mélange de Jaurès, de Clémenceau, de Victor Hugo, etc. Il laissait à deux ou trois proches la tâche pénible de devenir milliardaire et de dégager suffisamment de bénéfices en même temps qu'il se dégageait des contingences pour pouvoir payer son café, par exemple. On ne connaît pas, vous savez, on l'a beaucoup lu dans la presse, on ne connaît pas, quand on est président, le prix d'un café ou d'un ticket de métro. Alors, d'autres présidents quand même, autre chose en effet, avec par exemple Sarkozy ou Macron. Avec le Nicolas et l'Emmanuel, dit Éric, deux parcours se croisent. Le premier, militant politique depuis l'adolescence, attendait non sans impatience d'être libéré des palais publics pour se construire une retraite confortable. Et qui le lui reprochera? Rien de plus facile grâce au statut d'ancien président. 100 000 euros la conférence et des conseils d'administration à n'en plus finir. Le second, au contraire, voyait dans la banque le parfait véhicule pour se hisser vite jusqu'aux cimes du pouvoir. Il s'empressa donc de s'y faire embaucher. La banque d'affaires est plus encore que l'avocature d'affaires le lieu le plus fertile pour se bâtir un réseau de relations. De celles que certains, trahissant le plus noble des mots, appellent amitié, alors qu'il ne s'agit que de vulgaire commerce. Je te fais gagner de l'argent, tu me donnes l'occasion d'en gagner encore davantage. Et finalement, de ces réseaux mafieux, on a une idée fausse. On les croit horizontaux, mais ils sont ascensionnels. Mais oui, un jour il faudra l'écrire, il faudra écrire que ce qui est important, c'est le bon usage des ascenseurs. L'important dans cette machine merveilleuse n'est pas d'y monter bêtement pour s'épargner les fatigues de l'escalier. Non, l'important, c'est de les renvoyer. Le renvoi d'ascenseur, c'est l'outil premier, la décision décisive. C'est ce qui permet l'élévation sociale. Dès qu'un service vous a été rendu, vous empressez de renvoyer l'appareil. Un peu comme au tennis, mais sans volonté de triompher de l'autre, avec pour seul profit, comme on disait tout à l'heure, le profit commun. Et décidément, le tennis et la banque d'affaires ont bien des ressemblances. Ces activités vivent d'échanges et de coups. Et si le banquier vainqueur ne brandit pas la coupe, il empoche discrètement le success fee, la rémunération du succès. Eh oui, banquiers, financiers, gens d'affaires et gens de pouvoir, ils vont main dans la main et ils se renvoient l'ascenseur. Et l'ogre? Ah bah oui, bien sûr, l'ogre là-dedans, il est bien placé. Il mange et il boit aussi. Vous savez, il a gagné en France ce qu'on a appelé à un moment donné la guerre de l'eau. La guerre de l'eau, ah bah oui, c'était Vivendi, c'est devenu Veolia. Et avec Veolia, eh bien oui, il a misé et gagné encore une fois l'ogre. Toujours plus d'argent. Eh oui, toujours plus d'argent. On en a déjà tellement, mais vous savez, des frais inconnus, des dettes inavouables. Et puis toujours, semble-t-il, cette terreur de la mort. Vous savez, comme bien d'autres possédants et comme bien d'autres dirigeants, notre ogre, il est hypochondriaque. Il mange beaucoup, mais il a toujours peur d'être malade. Donc il faut qu'il se trouve d'autres solutions. Il mange, il consulte, il craint d'être malade, mais non, il guérit, bien sûr. Et on va arriver peut-être à un petit texte qui nous explique encore le fonctionnement des ogres.
Oui, il peut arriver que les fauves se dévorent entre eux. Oui, la vue et l'odeur du sang peuvent les rendre fous. Oui, la frénésie de tuer s'empare de certains animaux, les requins par exemple, ou les orques. Mais non, aucun animal dit sauvage n'est atteint par le cancer du toujours plus. Les prétendus sauvages ne tuent ou ne prélèvent que pour se nourrir, tout de suite ou l'hiver venu. Aucun, comme chez nous, n'amasse pour amasser. Et surtout, dans le règne animal, notre espèce exceptée, la solidarité est bien plus fréquente que la concurrence. Pour se nourrir comme pour résister au danger, les bêtes, décidément mal nommées, des plus petites comme les virus jusqu'aux plus grosses comme les éléphants, se rassemblent en ruches ou en meutes, s'allient et partagent les tâches comme les repas. En choisissant pour principe directeur de nos sociétés la concurrence effrénée, notre espèce humaine s'est trompée et nous constatons chaque jour les conséquences de cette terrible erreur. C'est cette concurrence partout et toujours qui a déréglé notre planète et son climat. Qui peut nous croire capable de résister à tous ces périls qui montent sans un retour à la solidarité ?
Oui, la nécessité de la solidarité, bien sûr, c'est ce que l'auteur met en avant. Mais finalement, lorsque on cherche une conclusion à notre affaire, eh bien, ça sera difficile de la trouver autrement que par les moyens de communication que justement il a aussi dévorés. Parce que finalement, notre ogre, il a accumulé, bien sûr, il a accumulé du capital, il a accumulé du pouvoir, mais finalement, le pouvoir, il n'en a jamais assez. Et le pouvoir, il a imaginé qu'il allait peut-être pouvoir pousser un de ses amis jusqu'à la présidence, jusqu'à financer, vous savez, la candidature d'Éric Zemmour. Jusqu'à aider tout cela grâce au bagou, on ne peut pas dire ça autrement, de Cyril Hanouna. Enfin bref, notre ogre, finalement, les nourritures terrestres ne lui suffisaient pas. Il a rêvé d'autres nourritures, il a rêvé d'autres pouvoirs. Et puis là, quand même, il s'est cassé les dents. Ah bah oui, il s'est cassé les dents, la main droite bien sûr, sur le cœur, coiffé d'un vieux bicorne, ou avec son sabre et son goupillon, même s'il criait « Reconquête, reconquête, halte au remplacement, je suis l'avenir », ah bah non, ça n'a pas marché. Notre ogre s'est cassé les dents, c'est ce qu'on souhaite à tous les autres ogres, on en a assez d'être dévorés, assez d'être dévoré par le pouvoir beaucoup trop fort du capital et du capital régnant. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On aurait pu se passer l'international. On va juste vous passer la chanson de la peur du loup et on va vous souhaiter une bonne semaine en attendant d'autres histoires la semaine prochaine. À bientôt.
Qui a peur, qui a peur du loup? C'est pas moi, c'est pas moi, c'est peut-être vous. Qui a peur, qui a peur, qui a peur du loup? C'est pas moi, c'est pas moi, c'est peut-être vous. Je l'ai vu courir dans les bois, la gueule ouverte des crocs comme ça. Je l'ai vu courir dans les bois, cherchant une proie. Qui a peur, qui a peur du loup? C'est pas moi, c'est pas moi, c'est peut-être vous. Qui a peur, qui a peur, qui a peur du loup? C'est pas moi, c'est pas moi, c'est peut-être vous.